Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse, 9e partie, la femme, le dragon et l'enfant.
À vos Bibles, nous continuons le livre de l'Apocalypse. Alors vous savez qu'on est déjà au chapitre 10. Voilà. Alors on va prendre le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12. Chapitre 12, c'est la 10e étude, hein, c'est ça. Alors, c'est intitulé « La femme, le dragon et l'enfant ». Ce chapitre s'ouvre sur deux grands signes célestes. On va le lire dans quelques instants. Où une femme apparaît, elle est sur le point de mettre au monde un enfant. Puis un être que nous pouvons qualifier d'effrayant, puisqu'il s'agit d'un dragon rouge feu, on en reparlera tout à l'heure, dont l'objectif est d'anéantir, de mettre finalement en échec le plan divin de salut. Alors on va commencer par le verset premier. Et je lis avec vous, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » On va commencer par là. La première chose, c'est une interrogation. Que peut représenter cette femme et quel est son rôle dans l'histoire? Alors, on va d'abord évacuer ce qu'elle n'est pas. Et ensuite, nous nous appliquerons à dire ce qu'elle est. Certains ont vu en elle soit l'Église ou encore Marie, pour naturellement la catholicité, c'est-à-dire le monde catholique romain. La question est tranchée par le bon sens. Dans le texte, la femme enfante un fils, or, s'il s'agissait, comme certains le prétendent, de l'Église, on arriverait très vite à un non-sens. Et on va l'expliquer par le fait qu'une mère existe naturellement avant son enfant. Personne n'ira démentir ça. C'est tout à fait logique. Ça paraît assez étonnant, mais c'est comme ça. Et certains ont bâti une doctrine en expliquant l'Apocalypse sur ce fait. Et que c'est bien le contraire qu'affirme l'Écriture sainte, parce que l'Église, je le souligne, est issue de Christ. C'est Christ qui a donné naissance à l'Église. D'accord? Pas le contraire. Quant à Marie, certains ont vu naturellement, et je pense dans un but de cette doctrine mariale, une doctrine qui n'a rien à voir avec l'Évangile, qui est une invention des hommes. Quant à Marie, cette interprétation se heurte au verset 5. Et que nous dit le verset 5? Nous en parlerons tout à l'heure. Il nous est simplement rappelé dans ce verset, « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » On y reviendra dans l'explication, et je dis bien que cette interprétation ou cette thèse de vouloir mettre Marie, donc, pour expliquer la femme, le verset 5 nous dit que cette femme s'enfuit au désert après que son enfant ait été enlevé vers Dieu et son trône, c'est-à-dire après la résurrection et l'ascension. Or, la doctrine romaine fait la confusion avec la fuite de Marie en Égypte. certainement en toute connaissance de cause, pour soustraire le nouveau-né de la colère d'Hérode. Ce sont deux événements différents. Deux événements, et j'expliquerai eh bien, ce que signifie cet enlèvement vers Dieu et vers son trône dans quelques instants. Par contre, il y a une proposition qui est tout à fait scripturaire, c'est que tout devient clair et compréhensible quand on reconnaît en la femme la nation d'Israël. C'est important, je le répète, la nation d'Israël. Jésus est d'origine juive. Et souvenez-vous, à la femme samaritaine, il a dit ces paroles, « Le salut vient des Juifs ». On pourrait le décliner peut-être en disant, mais le salut de Dieu eh bien, vient de la nation d'Israël, il vient des Juifs. Tout dans l'Ancien Testament démontre que les Juifs, durant des siècles et des siècles, ont été tragiquement dans les douleurs de l'enfantement. Les prophètes en parlent abondamment. Ça revient très souvent, cette image où Israël, à travers diverses fortunes, il faut bien le reconnaître, différents événements, situations, a été le peuple qui a porté une espérance et une consolation pour lui-même, mais aussi pour le monde. Souffrance de l'enfantement est manifestée particulièrement dans ces grands hommes de foi que nous voyons défiler dans l'Ancien Testament, et notamment les prophètes. Donc, ces douleurs de l'enfantement d'Israël dans l'attente pathétique de leur Messie. Et des livres comme Ésaïe et bien d'autres le démontrent à l'évidence. Jean en fait la description de cette femme. Il nous est dit que cette femme est enveloppée de soleil. Alors écoutez bien, parce qu'il y a des petites nuances à faire. Le soleil. Celui-ci étant le symbole de la gloire et de la magnificence de Dieu. Or, cette glorieuse illumination qui enveloppe cette femme n'est pas le fait propre d'Israël. Ce n'est pas Israël, nation parmi les autres nations, qui aurait quelque chose de particulier, sinon qu'elle a reçu quelque chose. Donc, ce n'est pas le propre d'Israël, mais cette illumination lui a été donnée en vertu de son élection divine. Ouais. Israël est démontré de cette manière sous l'image de cette femme parce que Dieu a élu ce peuple, il a choisi ce peuple, il a établi ce peuple et il lui a donné des responsabilités. Parce qu'il faut bien le reconnaître, mais Israël est un peuple très particulier, marqué d'en haut par la révélation et le miraculeux. Tout est révélation et le miraculeux est présent partout en ce qui concerne la nation d'Israël. Donc c'est la gloire divine qui est manifestée à ce moment-là. Ensuite, l'apôtre Jean voit cette femme, la lune sous ses pieds, et j'explique. La lune, c'est l'astre de la nuit, dont la lumière est une autre clarté, autre que le soleil, mais une autre clarté par réverbération, comme réfléchi dans un miroir. La lune a sa lumière parce que c'est le soleil qui l'éclaire et cette lumière nous est renvoyée à nous, les terriens, enfin sur notre planète. Ce qui montre quelque chose et qui est très compréhensible, c'est ici l'image de la loi donnée à Israël comme la lune reçoit la lumière solaire et la restitue dans la nuit. Ainsi, la loi Moïse, la loi mosaïque et le réfléchissement du soleil de justice, parce que les 10 commandements et les autres, c'est quand même l'émanation, c'est la pensée profonde, c'est l'essence même de la justice de Dieu. Donc, le soleil de justice, c'est un terme biblique, ça, hein, venu du ciel. Voilà. C'est pour cela que cette femme est auréolée, enveloppée du soleil, on a expliqué pourquoi. La lune est sous ses pieds, et le fait qu'elle soit sous ses pieds, ça s'explique, pour nous amener à comprendre que la loi n'était que l'anticipation, c'est-à-dire l'ombre, l'anticipation de ce qui allait venir éclairer le monde un jour, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire le Messie, à travers son salut et son sacrifice parfait, comme nous dit le livre des Hébreux, c'était une ombre des choses à venir. C'est Paul qui en parle, mais nous le voyons aussi, ce nous est dit, Eh bien, dans le livre des Hébreux, je voudrais simplement rappeler ce fait. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation. Quand je vous ai parlé du soleil, quand je vous ai parlé de la lune, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et la loi n'a jamais amené les gens à la perfection. Elle n'était que tout simplement, eh bien, un reflet qui s'est trouvé, réalisé dans la personne de Christ. Lui qui est attendu. Lui qui est attendu. Donc, un sauveur, son sacrifice parfait, qui viendrait sauver le monde perdu. Voilà. La loi était destinée dans un premier temps à Israël. Et nous voyons que l'universalité du salut s'est répandue non seulement à Israël, mais à partir d'Israël, le salut vient des Juifs, mais également, eh bien, par-delà, finalement, eh bien, cette nation. Dans cette attente, la nation d'Israël, je le répète, devait s'appuyer, c'est-à-dire sous ses pieds. Elle devait s'appuyer tout simplement sur la loi préparant la foi. C'est pour ça qu'il nous est dit que la lune, qui n'est que le reflet de la lumière et de la gloire de Dieu, du soleil, eh bien, la nation d'Israël s'appuyait sur la loi. Et cette loi était une préparation pour arriver à une autre dimension supérieure, infiniment supérieure, qui était la foi. Le salut par la foi. Ensuite, on remarque dans la lecture que la femme a sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Ces 12 étoiles représentent le gouvernement des nations. Jésus le dira à ses disciples. Vous serez assis, quand il parle à ses disciples, mais vous serez assis pour gouvernement. Il parle de ça dans Luc. Et ce n'est qu'une préfiguration du rôle dévolu à Israël au cours du millénium, que nous retrouvons, dont nous donnerons une explication au chapitre 20 de l'Apocalypse. Mais ça, c'est encore dans quelques mois. Donc, anticipation de ce rôle qui sera rempli par Israël au cours du millénium, 12 étoiles, 12 tribus, parce qu'on ne parle que d'Israël pour l'instant. On va passer maintenant au verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Sans aucun doute, l'enfant à naître, et là il n'y a aucune ambiguïté, l'enfant à naître ne peut être que le Christ. Et en ce qui concerne Israël, le Messie. Et c'est bien Israël qui le porte, c'est bien Israël qui l'enfante et le donne au monde. On assiste ici à l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Alors on connaît l'histoire. L'histoire, elle connaît à travers les récits de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, particulièrement en ce qui concerne la naissance du Christ. En tous les cas, pour Matthieu et pour également Luc. On va un peu plus loin. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Voilà l'entrée en scène du deuxième signe. On a lu tout à l'heure qu'il y a eu un grand signe qui est apparu. Voilà maintenant le deuxième. Il est question d'un grand dragon rouge. Le dragon représente clairement Satan. Le diable, il est identifié comme ça, c'est pas trop difficile. Il se distingue ainsi. 7 têtes couronnées, qui est le signe d'une intelligence, la tête, l'intelligence. Elles sont couronnées, mais une intelligence perfide, diabolique, satanique. Et 10 cornes, qui dans la Bible imaginent toujours la force. On le sait, ça, on a déjà dit. Tout indique qu'il règne sur le monde par usurpation, c'est-à-dire qu'il s'est emparé finalement du pouvoir. C'est pourquoi Paul l'appellera, et il le dira, le prince de la puissance de l'air. Oui, le prince de ce monde. Mais c'est tout simplement parce que il a volé, il a pris cette place, et il se sert de sa force, dont la seule intention Et la résolution qui est en lui, c'est de détruire. Détruire le plan de Dieu, détruire l'œuvre de Dieu, détruire les serviteurs de Dieu, détruire les enfants de Dieu, détruire la création de Dieu. On le voit à travers la nature et autres. La folie des hommes, par le péché, mais par toutes ces déferlements et conséquences du péché, la guerre, etc. On en arrive maintenant au verset 4, hein, où nous lisons « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Il est question donc du dragon et il est décrit avec une queue. Une queue qui entraîne le tiers des étoiles dans le ciel. Cette queue, il agit par séduction. Il y a la force, la séduction, et il fait apostasier, c'est-à-dire qu'il fait tomber les hommes ayant pouvoir, autorité sur la terre. Et il agit du ciel. Pour l'instant, il agit du ciel. Nous allons voir tout à l'heure qu'il va être expulsé du ciel. Mais pour l'instant, il agit. Alors, quels sont ces hommes? Quels sont ces étoiles, nous pourrions dire, finalement, qui sont là, hein, le tiers des étoiles du ciel? Alors, on a évoqué beaucoup de choses sur le monde, dans le monde, ceux qui sont investis d'autorité, de pouvoir, les grands et les chefs, les puissants. Et puis, peut-être également de séduire et de détruire ceux que Dieu a mis en place, y compris peut-être même les enfants de Dieu, pour les faire tomber, pour les neutraliser. Toujours est-il qu'il agit du ciel sur la terre. Et en même temps, il déclenche, nous dit le texte, à sa suite, une avalanche d'esprits méchants qui se répandent sur la terre des hommes. Et là, nous allons rentrer véritablement dans les derniers temps de cette humanité, de notre humanité. On en reparlera dans les chapitres, ne serait-ce que le prochain. Vous allez voir que ces étoiles dont il est parlé, et que tout le travail qu'il est en train de faire, ça c'est quelque chose qui va se retrouver. Infectation d'esprit méchant. Le texte nous rapporte qu'il se tient prêt à dévorer son enfant quand il naîtrait. Toute l'œuvre satanique, au travers de l'histoire des siècles, et on n'a pas le temps ce soir de reprendre du livre de la Genèse jusqu'à nous, tous les points, ils sont nombreux et j'apporterai certainement un message sur la question parce qu'il y a bien des choses à dire qui met en évidence la réalité du mal dans notre monde. De voir toutes les tentatives à travers l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais c'est un travail à faire. J'ai bien l'intention parce que c'est très intéressant à prendre en considération. Et nous voyons que toute cette œuvre diabolique s'est manifestée à travers l'histoire dans les siècles et là, dans le texte que nous voyons, concentré dans un ultime assaut pour éliminer le plan de salut juste avant qu'il ne soit révélé, c'est-à-dire juste avant la venue de Jésus, du Christ, du Messie. Il va essayer de mettre ça en échec. Et tous ses efforts sont concentrés dans ce sens. Mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu, puisque le verset 5 ajoute ceci, et c'est la consolation pour ceux qui ont la foi. « Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Nous retournons au verset que nous avons donné tout à l'heure. L'enfant enlevé vers Dieu et vers son trône représente Jésus mis par son élévation hors de toute atteinte de l'ennemi. Et on y reconnaît à ce moment-là deux grands faits de la vie de Jésus. Non seulement, bien sûr, la mort, mais c'est une mort trompeuse puisque ce n'est pas la mort. C'est une mort trompeuse pour l'ennemi. Il fait une œuvre qui le trompe, comme nous dit Paul, mais on voit deux grands faits, la résurrection et l'ascension. Comme ça que nous pouvons avoir la meilleure approche de l'explication où Dieu va intervenir pour soustraire cet enfant qui vient pour sauver les hommes, le Messie, le Christ, à travers ce grand défi qui dépasse notre intelligence humaine, la résurrection et donc son élévation dans le ciel. Le verset 6 nous dit « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Le désert est pour la femme un lieu de retraite, un refuge, une protection qui dure, comme nous l'avons lu, 1260 jours, où elle demeure cachée et elle est nourrie. Et pendant cette période, puisque nous en avons parlé, peut-on y voir le temps des nations, c'est-à-dire toute cette période qui a été de l'ascension de Jésus jusqu'à son prochain retour. Un deuxième tableau fait la démonstration des conséquences de la naissance et du sacrifice expiatoire et de l'ascension du Christ. Le verset 7 nous l'explicite. « Il y eut guerre dans le ciel, Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Voilà, une nouvelle page est en train de s'ouvrir devant nous. C'est l'expulsion du dragon. Et nous allons voir comment les choses sont précédées. Donc, on en est à la présentation de la femme. On a vu la présentation du dragon, ce qu'il est, ce qu'il se prépare à faire pour détruire le plan de Dieu. Et maintenant, puisque Dieu intervient pour protéger la femme, entendez par là Israël, eh bien, il va y avoir un jugement, une intervention de Dieu par cette expulsion donc de Satan. Un des grands chefs que nous connaissons dans le livre de Daniel, prophète Daniel, Michaël, Michel, qui veut dire, la signification de son nom, c'est « qui est comme Dieu » ou encore une autre explication, « le défenseur des enfants de ton peuple ». Donc, c'est un archange. C'est un archange qui vient secourir le peuple de Dieu. Il est préposé par Dieu à secourir son peuple. Il est puissant. Il est très puissant. Il est envoyé pour s'opposer à Satan et le vaincre, accompagné d'une armée angélique. Autant le diable aussi a toute sa hiérarchie. Et avec ses armées, principautés, dominations, esprits méchants dans les lieux célestes, eh bien nous avons aussi la réplique dans l'autre sens naturellement. Alors, les choses sont présentées de cette manière. Il nous est dit que les anges combattirent, mais le dragon et ses armées ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ça, c'est le verset 8. Un combat cosmique, de dimension cosmique, s'engage et brise à jamais la puissance du dragon, lequel abandonne. Et retenez bien ce que je vais dire, parce que ça va être encore une nouvelle phase dans le livre de l'Apocalypse, lequel abandonne définitivement, ainsi que ses légions de démons, la sphère de ses domaines célestes, qu'il occupait depuis les temps immémoriaux. Il n'a plus de place dans le ciel. Il se prépare bientôt une place en enfer, dans les temps de soufre et de feu. On le reverra au chapitre 19 et au chapitre 20, ça. Mais pour l'instant, les choses sont présentées de cette manière. Là, il y a un grand tournant qui va se produire, verset 8, dans ce combat, parce que ce ne sont pas les hommes qui combattent, mais ce sont les autorités angéliques, ces messagers de Dieu dans le ciel, et ils vont être vainqueurs. Mais la question que nous pouvons nous poser, si le diable, si Satan n'est plus dans le ciel, où est-il maintenant? Où a-t-il trouvé finalement son habitat? Où a-t-il, eh bien, trouvé sa place? Le verset 9 répond à cette question. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puisqu'il a perdu, c'est une déduction, puisqu'il a perdu ses territoires et espaces célestes, alors c'est sur la terre, là où vivent les hommes, qu'il va donner désormais toute la mesure à sa fureur. Il avait déjà ses agissements, puisqu'on sait que depuis la chute, il s'est occupé des hommes. Il n'a jamais cessé de s'occuper des hommes, mais là, Il commandait d'en haut, mais maintenant, ça y est, hein, sa place est là, parmi les hommes. Et il va donner toute la dimension à sa rage. Et le lecteur est interpellé pour faire attention à ce qui suit. Parce que, ici-bas, la menace n'a jamais été aussi réelle. C'est bien le livre de l'Apocalypse que nous étudions. Et le livre de l'Apocalypse, c'est une espérance, une révélation d'espérance pour les croyants. Mais attention, pour tous ceux qui croient, ça va être quelque chose. Là, la bride va être lâchée. Et le mal qui a toujours existé, qui a été retenu, parce que moi je crois que Dieu a toujours eu le contrôle du début jusqu'à la fin. Mais là, ça va être lâché complètement, au milieu des hommes. Et ça va être quelque chose de redoutable. Le verset nous l'explique, le suivant, 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé ». Ah, il était déjà arrivé avec la rédemption. Il était déjà arrivé avec la crucifixion de Jésus. Mais là, c'est véritablement marqué. « Le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, voilà l'explication, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Jean entend une proclamation solennelle descendant des cieux. Il est là pour recueillir les paroles de Dieu et, une nouvelle fois, eh bien, il va avoir à entendre quelque chose de particulier. C'en est fait désormais, parce que c'est ce que ça veut dire, de l'ennemi de Dieu et des hommes. Premièrement, c'est que le diable ne peut plus accuser les enfants de Dieu. Jusqu'alors, il a mis les enfants de Dieu, il a mis les croyants dans toutes sortes de situations en leur lançant des traits enflammés d'accusations. On sait très bien que, de par la vie chrétienne et la vie spirituelle, que finalement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et que, bon, qui accusera les élus de Dieu puisque nous sommes sauvés? Mais quand même, là, ça sera terminé. Deuxième plan. Il ne peut plus contrefaire le Seigneur et ses œuvres. Parce que jusqu'alors, il a toujours été le singe de Dieu pour amener les gens dans, finalement, l'équivoque et dans l'ambiguïté, dans la controverse. Mais là, ça sera fini à ce moment-là. Il ne pourra plus séduire et tromper comme au premier jour de la création en Éden. Ça sera fini. Donc on va d'étape en étape et nous en arrivons au verset 11. Et c'est toujours la même proclamation et il est dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ainsi, les vainqueurs sont tous ceux qui ont traversé le crible des accusations sataniques et savent que leur délivrance tient à la victoire de l'enfant dont nous avons parlé, c'est-à-dire du fils. Dans une traduction, il est parlé du fils mâle pour montrer l'autorité. Donc, victoire de l'enfant, parce que le dragon n'a pas pu le dévorer à sa naissance et non plus à aucun autre moment. Le diable a cherché par tous les moyens, y compris par même ses amis, Judas en fait partie. Même Pierre a fait des tentatives inspirées. Il dira même à Pierre à un moment donné, tu ne sais de quelle pensée, les pensées qui t'animent. À travers le monde religieux de son temps, notamment les pharisiens, les scribes, et puis les sadducéens, à travers toutes sortes de... Même même ses compatriotes de Nazareth qui voulaient le basculer dans le ravin, dans le précipice. Enfin, tout était bon, hein, d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas les rappeler ce soir, parce qu'il y a tellement de choses semblables. Donc, il y a trois moyens. En effet, les trois moyens stratégiques et infaillibles déployés sont mis en évidence. Vous avez remarqué avec moi, nous l'avons lu il y a maintenant. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, 1. À cause de la parole de leur témoignage, 2. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, trois moyens par lesquels les vainqueurs sont vainqueurs. Et c'est quelque chose dont le diable ne peut rien contre. le sang de l'agneau, c'est-à-dire la foi dans le sacrifice expiatoire de Christ. C'est ce qui nous sauve. Hein. On n'est pas sauvé par la loi, on est sauvé par la foi. Il n'y a aucun mérite à faire prévaloir. C'est parce que nous nous sommes engagés à croire, tout simplement, par la grâce de Dieu. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu, il nous est dit. Ils l'ont vaincu par la parole de Dieu, ou plus précisément, à cause de la parole de leur témoignage. Mais derrière, c'est sous-entendu la parole de Dieu, parce que leur témoignage vient de la parole de Dieu. Et ils ont cru à cette parole, et c'est comme cela qu'ils sont forts, ils sont vaincus. Rendus à Dieu, qui prouve la réalité, qu'ils ont eu raison de croire Dieu et à ses promesses de salut. Et enfin, ils sont vainqueurs parce qu'ils ont aimé leur vie jusqu'à, tout simplement, jusqu'à ne pas craindre la mort. En d'autres termes, ça veut dire le don, l'abnégation ou l'abandon de leur vie pour l'amour de leur Sauveur, et j'ajoute ceci, tellement important, de la vérité qui est en Christ. La vérité de ses promesses, la véracité de sa parole. Et ils ont préféré finalement mourir que de renier. Donc nous avons parlé d'abnégation de ces vainqueurs par laquelle ces victorieux de la mort ont tout déposé sur l'autel en sacrifice de leur existence propre. C'est bien ce qui est demandé à chaque fois, hein, dans notre conversion. Oui, nous faisons l'offrande de nos vies sur l'autel. Quand il y a un service de baptême, on a compris ce que ça veut dire. Ce n'est pas le baptême qui n'est qu'un symbole, mais ça veut dire que Dieu maintenant, que Jésus a la priorité, qu'il a la seigneurie, il est notre sauveur, mais il est aussi seigneur. Et notre foi nous donne d'affronter des moments extrêmement difficiles pour rester fidèle, pour rester intègre, pour rester finalement eh bien, dans notre foi en Dieu. Nous arrivons au dernier verset de ce paragraphe. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est toujours le même message que Jean entend. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ça sera peut-être une autre façon de dire les choses. Tremblez la terre. Parce que dans le ciel, il y a de l'allégresse. Il y a de la joie. Il y a véritablement le triomphe. Mais écoutez bien. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre, savons ce que ça veut dire, et la mer, c'est les nations, c'est les peuples, c'est le monde, c'est l'humanité. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est ce que nous disions tout à l'heure. La bride est lâchée. Hein. Et on pourrait dire que il va voir. Il avait des pouvoirs, il en a toujours eu, mais là, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être autrement. Je le répète, il est expulsé du ciel, Satan, et il nous est donné son identité en quelque sorte. Satan, le dragon, le serpent ancien, on sait comment ça s'est passé, hein, sait pertinemment que c'est par lui, que c'est pour lui bientôt la fin de sa domination. Il va encore, et on va le voir la fois prochaine, il va encore tirer des flèches, hein, ça c'est certain, mais son temps est arrêté. Et c'est la fin de sa domination en perdant ses pouvoirs maléfiques tels que la séduction ou la force, on l'a dit, les accusations, les ruses, etc., sur le monde des hommes et en particulier sur ceux dont le cœur est en haut. Nous, nous sommes d'en bas, physiquement parlant, humainement parlant, naturellement parlant, nous sommes des hommes d'en bas. Mais vous savez ce qu'il nous est dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6, que nous sommes ressuscités avec Christ, déjà maintenant, et que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Un chrétien. C'est pour ça qu'on n'a rien à craindre en ce qui nous concerne. Ouais. Si nous restons fidèles, si nous sommes à l'image des vierges sages et prudentes, que nous avons nos lampes et qu'elles sont pleines d'huile, excusez-moi, hein, mais on n'a rien à craindre. Par contre, hein, il y a peut-être une situation beaucoup plus délicate pour les vierges folles. On en reparlera de ça. Mais toujours est-il que ça ne devrait pas effrayer. Nous, nous sommes corporellement sur la terre, mais notre vie réelle, elle est là-haut. Parce que notre place, notre cœur est là-haut, quelque part. Et le Seigneur le sait. Et on est appelé des rachetés. Et nous constituons l'Église, le corps de Christ sur la terre. Physiquement, c'est une réalité, mais spirituellement, c'est encore une autre réalité. Et c'est pour ça que nous sommes appelés, et Jean est appelé à l'écrire, pour se réjouir. C'est un appel à la réjouissance dans les lieux célestes, mais, par contre, c'est bien souligné, les jours du grand adversaire sont comptés, et si possibilité de faire le mal, eh bien, il ne va pas se gêner de le faire. S'il a les possibilités de faire le mal, il va donner toute la dimension. Oui, ces jours sont comptés, et ces possibilités de faire le mal et à faire mal sont comme à ce moment-là, dans cet instant, dans ce moment, comme concentrés dans le seul espace de notre malheureuse planète. Je ne sais pas quels sont les agissements dans le firmament et dans l'univers du diable, mais en tous les cas, il va donner toute la dimension. Malheur à la Terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je ne sais pas comment va réagir l'humanité et le monde. Est-ce que véritablement les gens vont se reprendre en disant « Mais tournons-nous vers Dieu ?» Ben vous allez voir que c'est pas aussi évident. Il y en aura certainement qui vont se tourner vers Dieu. Ça, moi, je le crois. Ça, c'est sûr. Ils vont s'arrêter. Tous ceux qui auront été ensemencés quelque part et qui auront été probablement négligents d'une manière ou d'une autre, mais c'est un euphémisme quand il est dit une grande colère. Il y a des traductions qui vont beaucoup plus loin que ça. C'est plus qu'une grande colère. Aussi, sa haine va être à son paroxysme à ce moment-là. On arrive au dernier paragraphe, le verset 13. « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. » On peut dire qu'après l'expulsion du ciel de Satan, nous assistons maintenant à travers le verset 13 jusqu'à la fin, il y a encore très peu de versets, nous assistons à une chose, ce que nous pourrions appeler l'assaut final des forces du mal. Écoutez bien. Voici Satan vaincu et expulsé du ciel qui cherche à se venger de la mère de l'enfant. Vous suivez, hein, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Est-ce que nous ne pourrions pas y voir le fléau du racisme et particulièrement de l'antisémitisme qui n'a jamais cessé pendant les siècles de l'Ancien Testament et les siècles du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'ère chrétienne, finalement de se manifester, hein. Ouais. À se venger de la mère de l'enfant. Il me semble que ça corrobore à ce que nous avons présenté au début. Ce n'est pas l'Église, parce que l'Église va avoir part hein, aussi. À cette, mais on a dit qu'on était protégé, qu'elle était protégée. Et puis, ce n'est certainement pas Marie, quoi qu'on en soit. Ce qui fait tomber tout à fait la doctrine catholique. Donc, ce fléau. Il nous est dit que le diable, à ce moment-là, nourrit une haine mortelle contre Israël. Alors, si on n'en était pas convaincu, il suffit de retourner 60 ans en arrière, et on va dire, et aujourd'hui, si Dieu ne tenait pas les rênes pour protéger Israël, je peux vous dire que ce serait un déferlement terrible et effrayant. Ce serait impossible. On le voit. Quand on entend encore ce qui est proféré, on essaie de faire fermer la bouche à ceux qui... Mais, parce qu'il y a des lois qui sanctionnent des choses comme ça, mais vous allez voir, ça ne durera pas. Parce que de ce peuple d'Israël est sorti son vainqueur, le vainqueur du diable. C'est pour ça qu'il y a cette haine. Verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Là, c'est le serpent. Celui qui va encore essayer de séduire la femme, là, Israël, et comme le serpent a séduit aussi Ève, la mère de l'humanité. Aussi, Dieu pourvoit promptement à sa délivrance en lui donnant deux ailes. Et elle est emportée par un grand aigle et se réfugie dans le désert. Alors ce désert a été le plus communément interprété, celui de l'affliction. C'est vrai, quand on voit les afflictions d'Israël, on peut dire que c'est vraiment la marque de ce peuple. Mais c'est le séjour terrestre, on peut le dire aussi. Je voudrais donner une petite lumière sur les deux ailes en question qui semblent symboliser ces vertus constantes au temps de la persécution pour Israël et pour l'Église dans tous les temps, de tous ceux qui sont persécutés, c'est la foi et l'amour. L'amour pour Dieu et la foi en Dieu. C'est ce qui a toujours tenu les croyants persécutés à travers tous les temps. La foi et l'amour pour Dieu. La foi en Dieu. Ça, c'est les deux ailes. Et le grand aigle, qui l'emporte avec lui vers des nouveaux horizons, ça s'appellerait l'espérance. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui l'attend. Et elle va vers l'espérance. Elle est portée, c'est symbolique. L'espérance. Vous savez ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Il y a trois choses qui demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Et quoi que l'on dise, si ce sont des vertus chrétiennes, aujourd'hui encore, il y a quand même quelque chose qui anime le judaïsme, quoi qu'on en dise. Même s'il y a du fanatisme, même s'il y a toutes sortes de choses qui... des résistances et toutes sortes de choses, mais c'est quand même, à travers tout ce qu'Israël a subi, c'est quand même son espérance en Dieu. C'est sa foi en Dieu, c'est son amour de Dieu. Comme aucun autre peuple. Bon, il manque un élément essentiel à Israël. C'est de reconnaître son Messie, c'est d'avoir les yeux ouverts. Mais ça viendra, on en reparlera. Israël persécuté, Israël pourchassé, mais jamais exterminé. Et quand bien même Israël serait exterminé, comme on l'a vu dans les camps de concentration, vous connaissez le chapitre d'Ézéchiel, chapitre 37, quand il nous est parlé de la vallée des ossements, où Dieu envoie de la chair, il envoie des nerfs, il envoie un souffle de vie, et après, il envoie son esprit. Ça, c'est vraiment la caractéristique du peuple d'Israël. Un point à souligner, c'est que la femme est nourrie dans ce désert, certainement par ses vérités, que sont l'amour, la foi et l'espérance. Parce qu'autrement, on ne peut pas subsister. Ce n'est pas possible. Durant un temps précis, il est dit un temps, des temps, un demi-temps, qui correspond à la période allant de la naissance du Christ jusqu'à son retour. Voilà. En gros, hein. Nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, qui reste à jamais la consolation des croyants dans tout simplement le feu de la souffrance. Vous savez pourquoi l'Église a subsisté? Pourquoi Israël subsiste? Et pourquoi l'Église? Parce qu'après, on va parler de la postérité d'Israël, la postérité de la femme. C'est quoi? C'est l'Église. C'est le monde judéo-chrétien. Et une chose qui a toujours tenu, autant Israël que pour l'Église, pour nous aujourd'hui, c'est cette nourriture qui est la parole de Dieu, qui est une consolation, une espérance au sein même de la souffrance. Et ça, c'est inouï. Parce que quand on voit ce qu'a pu endurer Israël et ce qu'a pu endurer l'Église à travers cette ère chrétienne, on se dit, mais tous ces gens qui se sont battus, qui sont allés au désert, qui sont allés dans les montagnes, qui se sont réfugiés, qui priaient en secret, on a brûlé, on les a jetés sur des galères, on a tenté de leur donner 1000 morts, ben, qu'est-ce qui les tenait? C'est parce qu'ils avaient la parole de Dieu et c'était une consolation, une espérance, tout simplement. Eh bien, on le retrouve ici. Cette nourriture, c'est ça. Et elle reste notre nourriture. Il nous est dit qu'elle a été emmenée loin de la face du serpent, qui se rapporte à une protection, à une mise hors d'atteinte des attaques meurtrières de l'ennemi. Et la Shoah, qu'est-ce que c'est? Vous savez, si les nazis ou Hitler voyaient Israël aujourd'hui, ils pourraient que constater une chose. On a raté notre affaire. Ils voulaient les détruire, ils sont encore plus vivants que jamais. Plus vivant que jamais, la Shoah, parce que c'est l'enfer de la haine, l'enfer contre Israël, et puis ça nous attend aussi, hein. Mais bon, on est là. C'est, vous savez, un petit peu l'histoire, si vous voulez faire le report, c'est l'histoire des trois amis de Daniel dans la fournaise ardente, hein. Il nous est dit que Dieu les a délivrés, et quand ils sont sortis, leurs vêtements n'avaient même pas été brûlés, et... ils sont sortis comme ça, tout simplement. Eh oui, ben les fournaises, le Seigneur est capable de sortir ceux qui mettent leur espérance. Et je termine maintenant, verset 15. Verset 15. « Et sa gueule, et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. » Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ce fleuve d'abord? On peut penser à une armée résolue à détruire Israël. C'est vrai. On sait ce que nous dit aussi le reste de l'Apocalypse dans un certain contexte. Il s'agirait peut-être aussi, puisqu'il nous est parlé d'une queue perfide, la perfidie et la séduction, il s'agirait peut-être aussi d'un mal sournois qui coule comme l'eau, fleuve de mensonges, de calomnies et de haine. On est dedans. Tous ces ismes politiques, religieux, fausses doctrines, poison de la philosophie humaine, etc., qui atteint à la fois Israël, mais qui nous atteint aussi, et qui atteint l'Église, naturellement, pour saper, pour séduire, pour anéantir le peuple de Dieu, Israël et l'Église, tous les deux confondus, dénaturer la foi en Dieu, mais sans jamais y parvenir, parce qu'on ne détruira jamais la parole de Dieu. Oui. Paul le dira, si moi je suis lié, la parole de Dieu n'est pas liée, et les ennemis de l'Église ou les ennemis d'Israël ne pourront rien faire parce que la parole de Dieu subsiste. Elle est divine. Et le diable s'y est pris de toutes sortes de manières. Et ça pourrait être l'image de ce fleuve. Vous savez, ça passe un fleuve quand il est en inondation, quand il est en crue. C'est sournois, ça ne fait pas de bruit, mais ça emmène tout sur son passage et on s'aperçoit que ça va très très vite. Et le pays des siècles, c'est comme ça que ça se passe. Alors, cet échec du serpent ne fait que renforcer sa fureur, parce qu'il ne peut rien faire. Alors il s'en prend maintenant à sa postérité, comme nous dit le verset 17. Et vous allez vous reconnaître, parce que la postérité, c'est nous. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et là, c'est clair, ce n'est pas les Juifs qui retiennent le témoignage de Jésus, hein. C'est bien l'Église. C'est les enfants de Dieu. Cette postérité de la femme sans contredit, c'est bien l'Église de Christ. Elle est aussi menacée de destruction violente ou d'apostasie subtile, comme nous l'avons dit il y a un instant. Je reviens au verset 16. « Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon voulait lancer de sa gueule. » Qu'est-ce que ça signifie? Quelle interprétation nous pourrions donner approximative? Il apparaît que dans cette fureur démentielle du diable et de ses cohortes de démons, c'est la terre qui secourt la femme, c'est curieux, qui se porte au secours des persécutés pour un temps. Et vous savez, on vit dans une période qui nous interpelle aujourd'hui. Notre culture christianisée de notre monde occidental refuse pour un temps de s'associer à la violence sauvage, on pourrait l'appeler une accalmie démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu toutes les lois pour essayer de contrôler aujourd'hui un petit peu? On n'a pas le droit de parler contre ceci, pas le droit de parler contre cela, pas le droit de, surtout l'antisémitisme ou tout ce que vous voudrez. Ça, c'est une accalmie. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, cette accalmie, elle ne va pas tenir longtemps. Les murailles et les murs vont s'écrouler pour laisser un flot terrible. Donc pour l'instant, il semblerait que, comme nous l'avons lu au verset 16, « Mais la terre secourut la femme. » Oui. Elle ouvrit sa bouche, elle parle, pour dire « Attention, on ne va pas trop loin, parce qu'on connaît les conséquences que ça peut avoir. » Déclencher une guerre mondiale et ceci et cela, mais ça ne durera qu'un temps. Nos lois antiracistes aujourd'hui. Mais le verset 18 nous dit maintenant en conclusion, car il se tient, le diable, il se tient sur le sable de la mer. S'il y a eu une victoire éclatante dans le ciel, les répercussions vont se faire ressentir sur la terre. Le sable de la mer. La mer, c'est l'humanité, c'est les peuples. Parce que le diable ne s'avoue pas encore vaincu. On l'a lu, il est debout. Il n'est pas couché. Il n'est pas à genoux. Il n'est pas sur le flanc. Il est debout sur, tout simplement, le sable de la mer. Le sable des nations. Et il attend. Il attend quelque chose. Et là, nous allons rentrer à travers le chapitre 13 dans quelque chose de tout à fait particulier. Il attend l'aide d'une triple coalition. Ce qu'on appelle la trinité diabolique, qui est faite de la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Ça sera la suite que nous expliquerons. Et bien tout simplement, la prochaine fois, Et la prochaine étude, je vous donnerai la date, hein, au mois de juin, et nous aurons matière à nous expliquer entre la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Alors, voilà ce que nous pouvions dire autour de cette explication de texte. Et vous avez peut-être remarqué ou pas remarqué, mais j'ai omis volontairement de vous parler de la septième trompette. Je ne vous en ai pas parlé encore. On verra ça parce que je voudrais faire une étude particulière, c'est pas simple, mais sur la chronologie de l'Apocalypse pour qu'on comprenne bien. Parce que là, vous voyez, ça passe d'un moment à un autre, d'une situation à une autre. C'est peut-être un peu confus dans notre esprit, mais c'est pour ça que j'ai mis la septième trompette de côté. On en reparlera plus tard. Et on continuera notre étude, donc, sur le chapitre 13. Que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement terminer en priant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, en effet, Père éternel, tu veux nous aider à comprendre. Tu veux nous aider, Seigneur, à nous approprier, Seigneur, par la foi naturellement, eh bien, des révélations, voire même des mystères, mais qui ne sont plus un mystère lorsque le Saint-Esprit nous éclaire. Alors nous voulons véritablement nous approcher le plus possible d'une explication, en effet, Seigneur, qui renforce notre foi, qui étaye notre confiance en toi et qui nous donne, Seigneur, de ne pas être des hommes et des femmes qui ont peur des événements, mais au contraire, de nous préparer debout, nous, en tous les cas, à acclamer celui qui vient. Et nous te remercions et nous te bénissons. Raccompagne-nous maintenant dans les choses que nous avons entendues, que nous pouvons peut-être repasser, relire, réécouter, Seigneur. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons dire tout simplement que Dieu nous a donné un Sauveur, qu'il nous a donné un Seigneur, et qu'il revient bientôt pour, rétablir, en effet, Seigneur, l'ordre de toutes choses. Et nous t'en bénissons dans le nom de Jésus. Merci et gloire à Jésus. Amen. Amen.